André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Bonjour Véronique Momy.
Bonjour André.
Nous sommes heureux de vous retrouver dans Théâtralité. Un petit rappel pour nos auditeurs. Vous êtes comédienne et lectrice et vous animez sur la côte atlantique des événements culturels où vous recevez des auteurs, dont par exemple Yasmine Kadra, que vous avez présenté dans notre émission en juin dernier. Vous nous avez parlé plus particulièrement de son roman « Les hirondelles de Kaboul ». Alors aujourd'hui, vous nous amenez dans le monde de Raymond Queneau, poète, romancier, philosophe, mathématicien, encyclopédiste, ouvert à la culture sous toutes ses formes. Se voulant résolument moderne, il va à contre-courant des attentes du public et estime que l'art doit s'inventer de nouveaux codes, de nouveaux modèles, un nouveau langage et de plus, et dans une société où s'impose de plus en plus le pouvoir dominant des médias. Alors, avant d'aborder deux de ses œuvres les plus connues, Exercice de style et Zazie dans le métro, et quelques mots sur cet auteur de la fin du XXe siècle dont l'image peut être déroutante, mais dont l'importance ne fait désormais plus de doute.
Vous avez tout à fait raison, André. C'est vrai que Raymond Queneau, qui est un auteur classé parmi les auteurs modernes, n'en reste pas moins un écrivain insaisissable. Il a traversé le courant surréaliste, la littérature engagée et le nouveau roman, sans jamais s'être plié à une seule de ses modes. Il a su imposer son style, original, alliant fantaisie, malicieuse et poésie. Alors, un petit peu sur la vie de Queneau. Il a passé son bac dans la ville du Havre, sa ville natale, qu'il quitte d'ailleurs juste après son bac, pour entreprendre une licence de philosophie à Paris, où très vite, il est initié à la poésie par le groupe surréaliste, qu'il nomme les Fous littéraires. Il restera 5 années aux côtés d'André Breton, de 1924 à 1929, convaincu quand même que ce n'est pas sa voie. Toutefois, il gardera de cette expérience le goût pour l'inventivité verbale et les jeux de mots. 1933, date importante, marque son entrée en littérature avec son premier roman « Le chien dent » et devient membre du comité, ce qui n'est pas rien, de lecture des éditions Gallimard. Dès lors, il est fasciné par le langage et ses mystères, donnant à son œuvre un côté énigmatique et insolite, avec cette originalité de style à la fois corrosif et inventif, mêlant avec vivacité la caricature, les trouvailles phonétiques et la satire malicieuse. D'ailleurs, les lecteurs d'aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à apprécier cette démarche qui se retrouve dans tous les genres où s'est exercé Queneau. Roman, poésie, chanson, si tu t'imagines, que tout le monde connaît bien et fredonne des fois, le théâtre, mais qui peut dans un premier temps paraître déroutante. C'est qui demande de faire preuve d'une gymnastique mentale pour intégrer dans ses textes, quel qu'en soit le sujet, des phrases parfois bien curieuses. Alors comme vous l'avez dit, André, ces deux œuvres majeures qui attestent de cette curiosité et de ce côté insolite et qui font de Raymond Queneau sa notoriété sont Exercice de style et le roman bien connu Zazie dans le métro.
Alors, parlez-nous de ce chemin littéraire qui fait de Queneau un écrivain majeur du XXe siècle, en maniant, voire triturant la langue française avec ses propres codes et de manière pas du tout conformiste.
Eh bien oui, il faut se replacer à une époque, l'époque de l'après-guerre. Cette période fut une période charnière de l'évolution littéraire française. Et pour ça, on va faire un petit retour en arrière avec ce qu'on appelle un laboratoire de l'écriture. Alors, qu'est-ce un laboratoire de l'écriture qui est en ébullition d'ailleurs depuis 65 ans et qui s'appelle l'Oulipo. L'Oulipo, ça veut dire ouvrard de littérature potentielle. C'est un groupe de recherche en littérature expérimentable fondé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, son complice scientifique mais néanmoins très féru de littérature. Ce groupe de travail est composé de mathématiciens, de physiciens, d'amoureux du langage, d'écrivains, bien évidemment. Tous travaillent sur la littérature, et alors c'est ça qui est très novateur, sous contrainte. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la manière dont un texte peut naître en appliquant dans son écriture une consigne, une structure, une forme ou ce qu'on appelle aussi une contrainte. L'idée est toujours de s'imposer des choses pour commencer à écrire. D'ailleurs, le président de l'Ouvroir depuis 2019 et le bien célèbre écrivain Hervé Le Tellier, qui a eu le prix Goncourt pour son roman L'Anomalie, et il disait, lorsqu'il a été nommé au prix Goncourt, que s'il n'avait pas été membre de l'Oulipo, il n'aurait jamais écrit ce roman de la sorte, et il aurait été très différent. Alors, les membres de l'Oulipo, ce sont les Oulipiens. Mmh. Il y en a à peu près une quarantaine. Ils se définissent comme des rats qui ont à construire le labyrinthe dont ils se proposent de sortir, enfin, quand ils se triturent les méninges sans arrêt. Ainsi, l'Oulipo a pour but de découvrir de nouvelles potentialités du langage et de moderniser l'expression à travers des jeux d'écriture, sans détruire ce qui a été établi, mais en introduisant de nouvelles règles. Celles-ci ne sont pas des dogmes, mais des contraintes malicieusement choisies, ce qui en fait le plus. On a un très bon exemple à côté de Raymond Queneau, c'est Georges Perec, qui avait écrit dans La Disparition, et dans ce roman, il avait éliminé sur 300 pages d'écriture la lettre E, pourtant la voyelle la plus utilisée de notre langue. Il faut quand même le faire. Mmh. Et je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment une petite pépite, un petit trésor. Et après, il est allé plus loin, Georges Perec. En 1972, il a écrit Les Revenantes. Alors, Les Revenantes, écrit R-E-V-E-N-E-N-T-E-S. Ouais, oui. C'est-à-dire que là, il ne glissait aucune voyelle, et entre autres la voyelle E. De ces contraintes formelles ont alors jailli un ensemble de productions aussi novatrices que pétillantes d'humour que l'on pourrait qualifier de potache. En témoigne, entre autres, les exercices de style de Raymond Queneau.
Les exercices de style. Alors, quelle était donc la contrainte dans ces exercices de style ?
Eh bien, la contrainte n'était pas banale. Il s'agissait d'écrire 99 versions de la même histoire. C'est une série quasi inépuisable de prouesses littéraires.
Oui, une démonstration de ce qu'est l'écriture, en quelque sorte.
Tout à fait. Ce sont tous les aspects multidimensionnels que l'on possède, c'est-à-dire la linguistique, la sémantique, la phonétique, la stylistique, la syntaxe, et j'en passe sûrement d'autres, que Queneau se propose de faire dans cette œuvre, en partant d'un texte originel qui tient en quelques mots, vraiment quelques mots tout à fait quelconques, un support narratif qu'il est possible de raconter au lecteur 99 fois de la même façon, si on peut dire, avec la même histoire, mais le principe et la contrainte, c'est surtout sans le lasser. C'est une contrainte ludique qui serait née, dit-on, après que Queneau, et c'est là où c'est très important que les arts se mélangent, que Queneau ait entendu l'œuvre de Bach, Die Kunst der Fuge, qui comporte 14 fugues et 4 canons. Il a pensé qu'il serait bien intéressant de faire quelque chose de ce genre sur le plan littéraire. Mmh. Et voilà la contrainte qu'il s'est imposée.
Alors, venons-en au texte et aux infinies variations. Dans le texte de base, le narrateur rencontre dans un bus un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau, orné d'une tresse au lieu d'un ruban. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son pardessus. Cette brève histoire est racontée, vous l'avez dit, 99 fois, de 99 manières différentes. Mise en image, portée sur scène des cabarets, elle a connu une fortune extraordinaire. Exercice de style est un livre les plus populaires de Raymond Queneau.
Tout à fait.
Pourquoi 99 versions ?
C'est vrai, 99. Qui ne s'est jamais d'ailleurs posé cette question ? Pourquoi pas 100 ? Bien, la réponse est sortie assez récemment par une thésarde en 2017, c'est-à-dire presque 70 ans après la publication de Exercice de style qui est sorti en 1947. Et donc, il existait en effet une 100e version, mais l'éditeur Gallimard a jugé inopportun de publier la 100e. La version a été retrouvée par cette jeune thésarde dans des courriers qu'écrivait entre autres Raymond Queneau à son éditeur Gaston Gallimard. Et donc, cette version, on peut comprendre pourquoi à l'époque elle avait été mise de côté, puisqu'elle s'appelait « frottement ». Hein, il faut toujours se replacer dans un contexte. Hein. Nous sommes dans les années 50, c'est sûr que « frottement » n'aurait peut-être pas plu à tout le monde. Et c'est un peu ce qu'il s'est dit entre Raymond Queneau et Gaston Gallimard, car il y a eu un échange de courrier entre eux. Et Gaston Gallimard a exprimé deux bonnes raisons d'avoir écarté ce texte. La première, comme je vous le disais, c'était que ça aurait pu choquer les plus jeunes lecteurs à la lecture de ce texte. C'est sûr que de notre époque, ça aurait paru désuet, mais à l'époque, on faisait très attention à cela. La seconde, c'est qu'il valait mieux laisser la centième version au bon soin du lecteur afin que le jeu se poursuive, car on pourrait faire 101, 102, 103 et 100 fin. Et puis, il y avait aussi une troisième raison, c'était que cette histoire de bus, qui semblait d'ailleurs, et qui semble n'avoir ni queue ni tête, et s'emportait très bien comme cela, comme l'écrit l'éditeur, trouve tout d'un coup dans la centième une justification logique et dévoile le poteau rose et laisse penser que les 99 versions antérieure et précédente serait incomplète ou fausse. Donc, par ces trois raisons, Gaston Gallimard a fait comprendre à Raymond Queneau que ce n'était pas la peine de la mettre. Et Raymond Queneau, qui est quand même un sage, il s'est rangé à l'avis de son éditeur, d'autant en plus qu'il avoue qu'il n'aime pas les chiffres ronds. Enfin, ça, c'était sûrement pour la boutade. Toutefois, ça lui a donné une idée, car Raymond Queneau, n'oubliez pas, toujours dans l'Oulipo, ce rat qui fait un labyrinthe, et il s'en est bien sorti, et a envoyé un courrier à son éditeur en disant « Écoutez, c'est très bien que vous m'ayez censuré cette version, cette centième version, ça m'a donné une nouvelle idée de livre, et ça sera l'histoire d'une jeune fille qui veut prendre le métro, mais qui n'y arrivera jamais, et c'est comme ça qu'est née Zazie dans le métro, et qui a été publiée une dizaine d'années plus tard. »
Zazie dans le métro, un succès populaire pour Raymond Queneau en 1959. Il use de ce qu'on appellera le néo-français, en tordant la syntaxe du français écrit par un langage parlé et phonétique. Zazie ne ressemblant en rien à l'idée que l'on peut se faire d'une petite fille dans les années 50, ni aujourd'hui d'ailleurs, qui à l'image de son auteur ne respecte aucune règle et ne pense qu'à s'amuser. Un an plus tard, on découvrira une adaptation cinématographique de ce roman par Louis Malle.
Tout à fait. D'ailleurs, une adaptation qui n'a pas eu grand succès, contrairement au livre. Je pense que Zazie dans le métro est plus, je dirais, une œuvre à lire qu'une œuvre à regarder. Donc, la parution en 1959 de Zazie dans le métro consacre véritablement la carrière de Raymond Queneau et lui apporte d'ailleurs la reconnaissance du grand public. Ce roman a été récompensé par le prix de l'humour noir et dépeint, comme vous l'avez dit André, les aventures d'une petite fille très débrouillarde dans Paris à la fin des années 50, il faut toujours se replacer dans ce contexte, où Zazie est confiée par sa mère à son oncle Gabriel pour quelques jours. À son arrivée, le désir de cette petite fille de 10 ans, c'est de découvrir le métro parisien. Mais voilà, ce grand désir est contrarié par une grève. Et à partir de ce moment-là, s'en suivra une aventure aux nombreuses péripéties que Zazie, notre très jeune provinciale, vivra seule ou en rencontrant des personnages, mais alors pittoresques, complètement fous, qui vont plonger immédiatement le lecteur au cœur d'un univers, mais alors dans un décalage pas possible. Vraiment décalage, hein, ne faut pas oublier l'époque où a été écrit Zazie. Le style, le titre et l'intrigue font penser à un roman burlesque. Le langage parlé est riche d'inventions, tant dans les dialogues que dans les passages narratifs. Des mots inventés avec une lettre en trop ou en moins, des expressions qui suggèrent. Queneau joue avec la langue, par des jeux de mots, l'emploi de l'argot et entraîne par son style le lecteur dans des situations mais complètement délirantes. D'ailleurs, quand on ouvre le livre, c'est vrai que ça peut paraître très déroutant, même encore à notre époque, parce que le premier mot, que dit donc Gabriel qui est l'oncle de Zazie, c'est écrit phonétiquement. Et il dit « d'où qui pue donc tant ?»« D'où qui pue donc tant ?» se demande Gabriel excédé. Donc vous voyez, écrit vraiment en manière argotique.
L'intrigue est plus déroutante encore que le style. Elle ne semble avoir aucun sens. Tous les personnages, leur attitude et leurs actes semblent irréels. Et le lecteur se demande s'il n'est pas dans un rêve. Trouscaillon, par exemple, a plusieurs noms. Pedro Surplus, Bertin, Poiré, Haroun Arachide. Et tous sont si pittoresques qu'on ne peut s'identifier à eux.
Ben, c'est le but. L'auteur ne cherche pas à rendre crédible l'histoire. C'est pour ça qu'on a des noms complètement, alambiqués presque. Il n'attend pas que le lecteur s'identifie au personnage aussi. Le roman ressemble à la vision fantasque d'un enfant, cet enfant Zazie, et Queneau nous invite sans aucun doute à remettre de la magie, de la fantaisie, de l'extravagance dans nos vies, comme peuvent le faire les enfants. D'ailleurs, Queneau était très admiratif de Lewis Carroll, qui, Lewis Carroll, on le connaît tous, publia en 1865 « Alice au pays des merveilles » et dont la première version fut « Alice dans le souterrain ». Pas surprenant que Queneau, comme on le sait, lecteur assidu de Lewis Carroll, « Zazie dans le métro » lui rend quelque part un hommage et la parenté entre « Alice au pays des merveilles » et « Zazie dans le métro » est sans équivoque. D'ailleurs, la déclaration finale de Zazie, la dernière phrase que dit Zazie, c'est « J'ai vieilli », ce qui est très amusant dans la bouche d'une gamine de 10 ans. Elle le pense très certainement, mais a-t-elle réellement grandi au cours de son aventure? Qu'a-t-elle appris? Que les adultes mènent une vie complètement absurde et qu'ils sont aussi perdus que les enfants, voire plus. Ce dont on est sûr, c'est que Zazie accède à ce monde d'adulte qui lui était fermé. Elle démasque tous les personnages et, dans un sens, devient un peu plus adulte. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle a vieilli. Le talent de Queneau est de faire osciller son lecteur entre deux mondes. Celui des adultes remplis de violence. Les péripéties se découlent le plus souvent d'ailleurs la nuit, dans des sous-sols parisiens. Et les personnages, ainsi, paraissent beaucoup plus libre. Et où Zazie peut s'exprimer comme elle veut, avec sa langue très grossière, sans qu'on lui fasse de reproches. Et ce monde des adultes vient tout le long du récit bousculer le monde de l'enfance auquel appartient encore Zazie, monde empreint des naissances. Et c'est ça qui est très beau, très original dans ce roman, c'est qu'on a cette confrontation entre ce monde des adultes et ce monde de l'enfance. Et où Zazie apprend plein de choses et a un vocabulaire dans une bouche d'une petite fille de 10 ans vraiment très chartier.
Oui. Alors Véronique, quels sont les points communs avec le théâtre?
Oh, il y en a beaucoup. Beaucoup de points communs avec le théâtre. Raymond Queneau, à travers ce roman de Zazie, utilise tous les codes et fait penser au théâtre de l'absurde, celui entre autres de Ionesco, et particulièrement à la cantatrice chauve. Les deux titres, d'ailleurs, Zazie dans le métro et la cantatrice chauve, sont déceptifs. Il n'y a pas plus de cantatrice chauve dans la pièce de Ionesco qu'il n'y a de Zazie dans le métro dans le livre de Raymond Queneau, puisque Zazie, on le verra, ne prendra jamais le métro. L'histoire de Zazie dans le métro en elle-même porte à être représentée, en effet, au théâtre. On est face à des personnages enfantins, mais aussi très dramatiques, car tous porte des masques. Gabriel, l'oncle, qui donne l'image d'un homme viril et fort, eh bien pourtant, il est danseuse de revue.
Ah oui.
Jeanne la cochère, la maman de Zazie, paraît une mère irresponsable et infantile, laisser comme ça son enfant de 10 ans dans Paris errer. Bon. Mais en fin de compte, elle a tué son mari à coups de hache pour protéger son enfant Zazie. Trouscaillon, encore un nom vraiment alambiqué. Trouscaillon, qui fait partie des personnages principaux, est un homme énigmatique, mais en plus, c'est lui qui s'occupe du marché aux puces, et il a des intentions très douteuses envers Zazie, et pourtant, il est officier de police. Donc c'est pour vous dire, ils ont tous un masque. Cependant, tous ces personnages ont du répondant. On va de répartie en répartie, ce qui maintient un rythme assez effréné. Les scènes se suivent sans moments creux, où l'on passe rapidement d'un décor à l'autre et au final, comme cela se passe souvent au théâtre, tout rentre dans l'ordre et s'achève par une grande et belle fête qui est donnée. Et où ils sont même célébrés des fiançailles. En un mot, on se retrouve ainsi face à une comédie de la vie de tous les jours. Le lecteur paraît émerger dans une nouvelle forme de théâtre, dans son fauteuil, comme le souhaitait Alfred de Musset. Toutefois, ici, on ne donne plus la pièce telle qu'elle est. Il faut chercher les didascalies et les gestuels dans le roman, dans le récit. Il y a aussi une autre forme de code théâtral. C'est que tous les personnages dans ce roman vont deux par deux. Vous avez Gabriel et Zazie, les deux personnages principaux. Mais vous avez aussi Marcel et Marceline. Vous avez Trouscaillon et la veuve Mouaque. Donc, ils sont tous deux par deux, ils se donnent des répliques, ce qui donne toujours ce rythme effréné, même avec des discours complètement décousus. Il n'y a qu'un seul personnage qui reste seul, c'est la mère Jeanne la Cochère, la mère de Zazie, qui, elle, reste toute seule. Bon, c'est vrai qu'elle intervient au début et à la fin quand elle reprendra Zazie, mais elle n'est pas accompagnée. Et c'est vrai que, on va lire un petit passage, enfin, je vous ai choisi un petit passage de Zazie dans le métro pour vous faire voir un petit peu les dialogues que Gabriel et Zazie entretiennent tout le long du passage. Ça se trouve au chapitre 2, la page 30, si ça vous dit de le relire et replonger dans Zazie, car c'est un livre qui est un livre qu'on conseille bien sûr aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Alors, dans ce passage, c'est Gabriel qui demande à Zazie pourquoi elle veut devenir institutrice. Et voilà ce que répond Zazie. « Pour faire chier les mômes, répond Zazie, ceux qui auront mon âge dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, toujours des gosses à emmerder. »« Eh bien, dit Gabriel, oui, je serai vache comme tout avec elles. Je leur ferai lécher le parquet. Je leur ferai manger l'éponge du tableau noir. Je leur enfoncerai des compas dans le derrière. Je leur borderai les fesses parce que je porterai des bottes. En hiver, hautes comme ça. » Avec de grands éperons pour leur larder la chair du derche. « Tu sais, dit Gabriel avec calme, d'après ce que disent les journaux, c'est pas du tout dans ce sens-là que s'oriente l'éducation moderne. C'est même tout le contraire. On va vers la douceur, la compréhension, la gentillesse. D'ailleurs, dans 20 ans, il n'y aura plus d'institutrices. Elles seront remplacées par le e-cinéma, la TV, l'électronique, enfin, des trucs comme ça. » C'est aussi écrit dans le journal l'autre jour. Zazie envisagea cet avenir un instant. Alors, déclara-t-elle, je serai astronaute. Voilà, dit Gabriel approbativement. Voilà, faut être de son temps. Oui, continua Zazie, je serai astronaute pour aller faire chier les martiens. Voyez, l'auteur n'hésite pas à exploiter le comique de situation, comme lorsque Gabriel ne semble jamais reconnaître les lieux. Dans Paris, il se perd sans arrêt. Autre ressort de la même ampleur, les personnages principaux prennent les promeneurs à partie. Ils se mêlent ensuite à l'histoire en apportant chacun leur avis, sans connaître le contexte. C'est ce qui arrive par exemple lorsque Turandeau, autre personnage, veut ramener Zazie à son oncle au moment où elle fugue. Zazie se sert des piétons pour lui donner une réputation de satyre et s'en débarrasser car elle veut surtout pas être ramenée à son oncle et continuer à errer dans Paris. Turandeau passe, voyez, du statut d'adulte responsable et agissant pour le bien à celui d'homme presque dangereux aux yeux de Zazie, qui sera elle-même prise à son propre piège quand Pedro Surplus utilisera la même technique pour la traiter comme une voleuse, ce qui offre en plus un bel aperçu de comique de répétition. Donc vous voyez, à chaque fois, on a toujours ce jeu de masque entre les personnages. Ensuite, la langue qui est employée à travers ce roman est elle-même très travaillée pour donner l'allure d'une pièce de théâtre. Qu'au théâtre, bien sûr, comique, voire, j'irai plus loin que le théâtre comique, de la farce. Bien que nous ne puissions nier que ce livre soit un roman, les nombreux dialogues, les didascalies et la forme appuient véritablement sur le mélange des genres littéraires, ce qu'on appelle le roman-théâtre. Zazie dans le métro donne à voir. D'ailleurs, il prête à voir de tout, sauf Zazie dans le métro, puisqu'elle dort le seul moment où elle s'y trouvera. Rien de surprenant, quelque part. Parce que, comme on l'a dit, c'est un monde entre le monde des adultes et le monde de l'enfant. Et le métro appartient à qui ? Au monde des adultes, ceux qui le fréquentent en général pour se rendre à leur travail. Cette œuvre, voyez, privilégie donc les dialogues et ainsi l'intrigue paraît plus naturelle et spontanée, comme une représentation de la vie telle qu'elle est, telle qu'elle arrive aux gens, sans plan établi, sans structure narrative. Notre vie n'est pas aussi ordonnée que celle d'un roman. Et c'est le chaos. Cet hasard qu'a voulu reproduire l'auteur. Rendre vivante, en fin de compte, la langue écrite, ça a été le pari réussi de Raymond Queneau, encore sûrement une contrainte de Loulipo. D'ailleurs, rien ne se passerait dans ce roman sans les dialogues. La perche et la parole est vectrice d'action et de comique. Les dialogues, pourtant, sont parfois vides. Ils ne s'écoutent pas, ils parlent pour ne rien dire.
Finalement, le perroquet résume bien l'art des dialogues dans ce roman lorsqu'il répète incessamment « Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire ». Merci Véronique de nous avoir présenté Raymond Queneau, ses exercices de style et Zazie dans le métro. Et à bientôt pour d'autres auteurs, éventuellement.
Mais avec un grand plaisir, André.
Un plaisir.
C'est certain que c'est toujours très agréable de venir présenter des auteurs et dialoguer avec vous.
Et le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Véronique. Notre émission est maintenant terminée. La citation du jour. Toute forme de langage devrait être reconnue et libre d'exister sans ironie. Elle est bien sûr de Raymond Queneau. Vous retrouvez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.